Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
Salut tout le monde, les grandes gueules du sport sur RMC, votre rendez-vous de débat autour de l'actu de la semaine et du week-end. On est ensemble pour 3 heures d'émission, 9h midi en direct ou quand vous voulez, en podcast si vous préférez picorer l'émission heure par heure, débat par débat ou dans son intégralité, mais à un autre moment. Les GG, c'est toute l'année, donc tout l'été, et surtout comme vous préférez. Au sommaire, dans un instant, la une des grandes gueules. Demain, c'est la finale de l'Euro de foot féminin. Angleterre-Allemagne, c'est l'affiche à Wembley. Ce sera sans les Bleus de Corinne Diacre, éliminée en demi-finale, un niveau de compétition que l'équipe de France n'avait encore jamais atteint. Peut-on pour autant dire que son tournoi est réussi? C'est en tout cas l'avis de Noël Le Graët, le président de la Fédé, qui souhaite d'ores et déjà prolonger le contrat de la sélectionneuse jusqu'en 2024. Vous nous direz, les GG, ce que vous en pensez. Kevin Mayer trouve que la France n'a pas l'esprit sportif. C'est la punchline de la semaine. Elle est dégainée par notre seul médaillé des récents mondiaux d'athlétisme à Eugene. Novak Djokovic, la suite, toujours pas vacciné. Le Serbe risque de rater l'US Open. Faut-il faire une exemption pour les sportifs non vaccinés? Cristiano Ronaldo est-il has-been? Le Tour de France femme a-t-il conquis son public? On en parle aussi dans les GG. Sans oublier votre double ration de zapping. On s'en fout pas. Et un invité, vous allez le voir, très spécial aujourd'hui. Votre rubrique les GG, vous en fin d'émission bien sûr. Amina au standard, Pierre Amiche à la prod et Bastien Madonna à la réalisation. Les grandes gueules du sport, ça démarre tout de suite sur RMC.
Bon, ce qui est important dans une équipe, c'est justement l'équipe.
Et autour de moi, pour vous accompagner jusqu'à midi, une grande gueule qui, comme Cristiano Ronaldo, est obsédée par l'envie de soulever la coupe. Marie Martineau dans les GG ce matin. Salut Marie.
Ah, elle est très bonne, elle est très très bonne. J'espère que tout le monde l'a eu ce matin. La coupette.
En plus, t'as mis un t-shirt approprié, je
Maman
crois.
Maman a besoin de champagne.
Maman a besoin de champagne.
voilà.
Doucement sur le champagne en ce moment, ma chère Marie. Encore quelques.
Là, c'est un peu tôt. Après, à partir de 13-14.
Mais je sais qu'il est déjà au frais. Une grande gueule qui, comme Cristiano Ronaldo, a un appétit insatiable, mais lui, c'est plutôt pour le sandwich rillettes et les chocolatines. David Douillet avec nous ce matin. Salut David.
Ouais, c'est vrai, tu as raison, Simon. Je suis malheureux parce que je suis au vert. Donc voilà, c'est.
Le régime, c'était avant, là. On est en plein été, là.
C'est les vaches maigres, mon vieux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Je dépéris.
Une vache maigre. Bon, mais on a hâte de voir ça. Tu nous envoies la photo, on la publie sur Twitter, ouais. David. Enfin, et c'est l'événement, une grande gueule qui, comme Cristiano Ronaldo, a une détente de kangourou, mais pas autant d'argent dans la poche. Arnaud Assoumani fait ses grands débuts dans les GG. Salut Arnaud.
Salut à toutes et à tous. Effectivement, j'aimerais bien avoir peut-être un centième de ce qu'a Cristiano Ronaldo, ça aiderait pas mal.
Et oui, Cristiano Ronaldo, vous l'avez compris, on en parlera tout à l'heure. Est-il has-been, Arnaud Assoumani? Il est pas has-been, il est tout nouveau dans les grandes gueules. Bon, écoute, on va te souhaiter une bonne première avec nous. On est en tout cas ravis de t'accueillir avec ce sourire et cet enthousiasme. On va se régaler.
Bah, ravi également. Merci pour l'invitation et merci de m'accueillir.
C'est cool. Il faut que tu sois bon, mais pas trop, parce que moi j'aimerais bien rester encore un petit peu. Quoi.
Voilà, on vient pas pour piquer la place des copains. Attention Arnaud, vous aussi les auditeurs, vous êtes dans l'équipe des GG ce matin. On vous attend au 32-16 sur l'application Direct Studio avec le hashtag RMC Live. Vous réagissez durant l'émission et puis vous prenez votre ticket pour intervenir dans les GG et vous dans le dernier quart d'heure, juste avant midi. On attend évidemment vos avis. Allez, c'est parti les amis, on a vibré, on a rêvé, on n'a pas beaucoup marqué, on est éliminé, mais visiblement on est quand même satisfait.
RMC,
la une des grandes gueules du sport.
Et c'est parti à l'instant même, le coup d'envoi donné par l'équipe de France.
L'occasion est trop belle pour aller chercher cette première finale internationale de l'équipe de France. Elles ont tellement buté par le passé.
Ah, attention à Oud qui va centrer. Oh le but pour l'Allemagne, l'inévitable Alexander Popp. 1-0 pour l'Allemagne. Gianni, allez, faut faire passer la puissance de la frappe de Gianni. Poteau et but. Poteau et le dos de la gardienne. L'équipe de France qui revient dans le match. C'est le premier but encaissé par l'Allemagne dans ce championnat d'Europe. Attention, dans la surface de réparation, la frappe à venir. Le ballon est dégagé par Mbok. Deuxième fois, le ballon encore une troisième fois par Mbok qui est venu se sacrifier. C'est pas fini encore avec Oud. La tête de Wendy Renard. Et non, la tête derrière. La tête et le but de la part d'Allemagne. Alexandra Popp, c'est incroyable.
Elle manque tous les ballons. Alexandra Popp, la capitaine de l'Allemagne, qui est en train de peut-être crucifier l'équipe de France.
C'est fini, c'est terminé. L'équipe de France est éliminée en demi-finale du championnat d'Europe par l'équipe allemande, par l'excellente Alexandra Popp qui réalise un doublé. L'équipe de France est battue
par plus fort qu'elle. C'est l'évidence ce soir.
C'est fini, c'est terminé, comme l'a dit Jeannot. Jeannot qui est en vacances, hein, il aurait pu prolonger quelques jours son service, mais malheureusement les Bleus sont éliminés. C'était mercredi soir du côté de Milton Keynes. Le parcours de l'équipe de France dans cet Euro de foot féminin s'achevait face aux Allemandes. Vous venez de l'entendre dans cette excellente production de Julie Dérault. Une défaite 2-1 face à une sélection qui a déjà remporté 8 fois la compétition, alors que les Bleus n'avaient encore jamais atteint ce niveau du tournoi. Reste tout de même l'impression qu'il y avait la place de passer en finale et un sentiment d'impuissance durant la rencontre. On aurait pu, mais on n'y a jamais vraiment cru mercredi. Alors, sur la musique qui fout les jetons, cette question, elle est grande gueule. L'Euro de foot féminin des Bleus est-il un échec, Arnaud Assoumani ?
Non.
Non pour Arnaud. David Douillet ?
Non.
Non pour David. Marie Martineau ?
Non plus.
Non plus, oh, le consensus, ouais. Alors là, les faillots.
J'ai
d'accord,
cherché,
vous allez voir, mais j'ai tenté de.
Faillot, non.
Écoutez, c'est aux auditeurs et à moi en premier lieu d'en juger. Avant de vous laisser la parole pour ce débat, on accueille Ilia Grandjean de la rédaction RMC Sport. Salut Ilia.
Salut Simon, salut tout le monde.
L'homme qui se lève encore plus tôt que nous le week-end.
C'est possible.
Question légitime, Ilia, cet euro est-il un échec? Parce que quelques instants après le coup de sifflet final mercredi dernier, les joueuses de Corinne Diacre balançaient entre le verre à moitié vide et le verre à moitié plein.
Oui, et comme on est des gens optimistes, pleins de vie, et que je pense à Marie, on va dire le verre à moitié plein pour commencer ce fameux plafond de verre.
C'est souvent trois quarts vide. Hein.
Ce stade de la compétition, les Bleus ont bloqué mentalement, sportivement. 7 euros, ça y est, la série de 5 éliminations de suite en quart de finale d'une grande compétition s'est arrêtée. Terminé les 11 ans de disette d'une demi-finale. Donc du positif malgré tout pour Corinne Diacre.
On a construit des choses, il y a un socle solide, il nous faut encore un peu de temps. Cette compétition, c'était peut-être pas la nôtre. La fondation est solide. On a bâti quelque chose d'important avec un groupe très sympathique, travailleur.
Oui, mais bon, finalement, dans cet Euro, les Bleus ont à chaque fois gagné contre des équipes réputées plus faibles sur le papier et perdu face aux favorites, face à elles, les Allemandes et leurs 8 titres européens. Pas d'exploit, pas de finale, pas de titre. Une compétitrice comme Wendy Renard ne peut pas s'en satisfaire.
On retient que les vainqueurs. Oui, on a franchi ces quarts de finale que vous nous avez tellement rabâchés. Et après, on arrive en demi et tu perds. Donc, dans quelques années, on va pas parler de ce match. On va parler de soit les Anglais, soit les Allemandes. Donc après, oui, c'est une déception et voilà, c'est pour ça. C'est pas facile.
Alors, je vous propose de partir sur un compromis. On l'accepte et on s'en sert pour la suite.
On va continuer à grandir aussi. C'est avec les échecs aussi qu'on continue à apprendre. On est tombé face à une équipe qui avait de l'expérience aussi. C'est sûr qu'avec ce genre de compétition, c'est ce qui va nous permettre d'aller chercher ce que l'on souhaite. On est très positif pour la suite.
Ce qu'elle veut chercher, Grace Gayoro, c'est un titre. Et la Coupe du Monde va venir vite. Ce sera dans un an tout pile, juillet-août 2023, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Merci beaucoup Ilia, tu restes évidemment avec nous pour ce débat parce que pour moi il y a débat et je vais essayer d'aller contrecarrer vos arguments. On rappelle l'Euro des Bleus est-il un échec? Vous m'avez tous dit non. Marie Martineau, tu commences. Pourquoi? Est-ce une réussite à l'inverse?
Oui, je pense que c'est une réussite. Ces filles, elles avaient besoin de trois choses selon moi. Elles avaient déjà besoin de crédibilité et elles sont allées la chercher. Elles ont provoqué du beau jeu, elles ont fait des belles actions. On a découvert ces minettes ou en tout cas certaines d'entre elles. Et rien que pour ça, déjà, je pense qu'elles ont réussi leur euro. C'était une sacrée tâche et elles partaient de loin. Donc déjà crédibilité, on coche, c'est validé. Elles avaient besoin de se faire voir, de visibilité. On a quand même été sur un euro qui a été suivi par les gros médias français. Alors je parle souvent de la chaîne numéro 1 française, mais tu me rappelles qu'RMC a joué le jeu aussi. Donc c'était vraiment chouette. Quand on fait 6 millions un samedi soir, je pense que la visibilité s'est checkée aussi. Et c'est hyper important dans la situation de ces filles-là, dans l'évolution de ce groupe féminin. Et puis elles ont eu besoin de se prouver que le groupe fonctionnait. Corinne Diacre qui a été assez raillée pour ça, je pense qu'elle a fait le job et qu'elle a fait les choix pour faire fonctionner un groupe. Au-delà des choix tactiques on est tous sélectionneurs pendant les grands événements comme ça, on pourrait tous dire ah j'aurais préféré voir le summer ou je ne sais qui machin truc au milieu, c'était peut-être un peu faible tout ça. En attendant, elle a formé un groupe qui fonctionne avec des filles qui s'entendent et ça se voyait sur le terrain. Donc rien que pour ces trois choses, crédibilité, visibilité et faire marcher le groupe, je pense que cet euro des Bleus est pas du tout un échec, bien au contraire, elles ont monté sur la marche. Alors j'entends Wendy Renard qui dit et elle a juste titre hein, qui dit voilà, on se souviendra pas de nous sur cet Euro peut-être, mais il faut savoir être patiente et en attendant elles ont fait le pas vers le fait qu'on se souviendra d'elles dans pas très longtemps, je pense.
D'accord, on est en progression, ça suffit à considérer qu'on a réussi notre tournoi. Alors je me tourne vers toi Arnaud, pour toi ce n'est pas un échec non plus. Alors je me permets de rétorquer quand même à Marie que on a tellement bien fait le job dans les médias qu'on n'est pas en finale. Je veux dire, c'est pas parce qu'on fait des belles audiences et que on met les petits plats dans les grands pour les filles, même dispositif que pour les garçons, que on réussit notre compétition. Là, on est sur le plan sportif. En gros, bon, on aurait quand même pu faire mieux, Arnaud.
Oui, mais il y a toujours moyen de faire mieux et forcément, les filles, je pense que les filles elles-mêmes de l'équipe sont déçues. C'est normal, c'est des compétitrices et donc leur but c'était d'aller au bout et donc déjà d'aller en finale mais d'aller au bout. Ensuite, non, c'est pas un échec parce qu'elles sont en constante progression. Des équipes, ça se construit. Elles ont fait quart de finale, elles ont perdu contre les championnes du monde à la Coupe du Monde en France. J'étais au Parc des Princes d'ailleurs dans le virage ce jour-là. Elles se font un bel Euro et une demi-finale. Il y a, pour moi, c'est vraiment la construction et le fait de bâtir, en fait, tout simplement, une équipe. Et alors, ces échecs, parce que c'est un échec pour les filles. À un moment, le but dans une compétition, c'est soit d'aller chercher des médailles pour le foot, c'est d'aller remporter la coupe. Donc, forcément, les filles veulent mieux, mais on peut pas considérer ça comme un échec de manière objective. Donc, et voilà, il faut continuer sur cette lancée parce qu'elles peuvent faire de grandes choses. Et on pourrait faire l'analogie, le parallèle avec l'équipe de France de rugby, qui maintenant, voilà, on sait par quoi ils sont passés et maintenant, voilà, ils sont numéro un. Au classement mondial, ça a été une construction, ça s'est pas fait en un claquement de doigts et du jour au lendemain.
Donc c'est ça, on est un petit peu sur la ligne Macron dans le studio des GG.
C'est
pas parce que ça n'a pas marché que ce n'est pas un échec. Non mais il
ouais,
y a pas de,
voilà,
y a
voilà.
Pas de, oui voilà, on s'en satisfait très bien. David Douillet, même son de cloche évidemment. Bravo les filles, bonnes vacances et merci.
Alors, un échec aurait été encore une fois de buter en quart ou avant, quoi. Voilà.
Bah non, mais c'est ça. Alors,
ça a monté d'un cran.
David, avant de te rendre la parole, je vais vous dire les choses très clairement. Oui. C'est que si elles sont éliminées par les Pays-Bas en quart de finale, la tête de Corinne Diacre est déjà sur le bio. On se demande s'il faut pas tout remettre par terre et on pose même pas la question dans les GG. On dit c'est un échec. Donc finalement, à un but près, une qualification obtenue in extremis, on en est à se dire.
C'est le sport.
On en est à se dire c'est une réussite. Donc voilà,
oui, non, bah, c'est une question.
On est d'accord, ça se joue à ça. David.
Ben c'est le sport.
Enfin, d'accord. Je l'entends.
Ah bah. C'est comme ça. Tu sais que c'est quelque chose. La compétition, surtout à ce niveau, c'est extrêmement difficile. Le niveau, il est élevé. La qualité de jeu, elle est là. Les filles se battent et être dans le carré final mondial. Enfin. Européen et lapsus révélateur, j'espère mondial bientôt. Voilà, c'est tout ce que je leur souhaite. Donc on rétropédale pas, je veux dire que quand tu es inscrit dans un schéma et c'est ce que dit Corinne Diacre hein, elles sont les étapes, parce que en réalité pour l'équipe de France de football française féminine, pardon, c'est l'objectif, c'est quoi? C'est de faire aussi bien que les garçons, c'est de devenir champion du monde, voilà. Et donc, je pense qu'elles ont ça dans la tête. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et je pense que c'est le cahier des charges de la fédération française. Donc, elles doivent marquer les étapes, elles doivent grandir. Mais surtout, et je rappelle qu'on est dans un sport co, avec des personnes qui feront peut-être pas la Coupe du Monde en 2023. Certaines ont déjà pris un peu. Pour des athlètes, hein, sont déjà un peu, notamment des ténors de l'équipe, comme Wendy Renard ou Kenza Dali. Elles ont un peu plus de 30 ans. Est-ce que seront encore toujours au top? Je leur souhaite l'année prochaine. Il y a des jeunes qui poussent, qui arrivent. Voilà, ce sera peut-être pas les mêmes équipes, pas totalement la même équipe. Il va falloir remodeler tout ça. Il va falloir transmettre des témoins. Il va falloir aguerrir des jeunes qui vont arriver dans les catégories d'âge inférieures et faire en sorte que cette équipe de France, comme elles l'ont dit, construisent une histoire et une histoire de la gagne. Et c'est tout le dilemme des sports co. Quand t'es dans un sport individuel, tu construis ta propre histoire. Et puis t'es tout seul. Et puis le témoin, bah ouais, y a pas de témoin puisque tu peux donner envie à quelqu'un, puis ça s'arrête là. Tandis que là, le mélange des anciennes, des jeunes, du savoir-faire, de la transmission, du partage, de la générosité dans un groupe, ça, tout ça, ça doit monter en puissance petit à petit pour, j'espère, gagner une Coupe du Monde.
Mais ça fait plutôt vide dans l'armoire.
Donc c'est positif.
Dans l'armoire à trophées. Bon, mais les anciennes et les jeunes, elles auront une demi-finale à mettre au palmarès. Tu voulais intervenir.
J'avais plus une question pour vous. Est-ce que pour vous, c'est encore avec Corinne Diacre, ça fait quart de finale, quart de finale, demi-finale. Comme tu parlais de prolongation qui était sur la table, est-ce que pour vous, ce groupe-là, ok, il vit bien, ça se voit, tu l'as dit, Marie, sur le terrain. Mais est-ce que c'est encore avec Corinne Diacre pour toi, Marie, par exemple?
Eh bien, tu vois, je fais partie de ceux qu'elle a convaincu sur cette Coupe d'Europe. J'étais pas spécialement pro Corinne Diacre, tu vois, j'avais vraiment du mal avec sa façon de manager, ses prises de parole en public. Elle me renvoyait quelque chose d'incompatible, en fait, avec le management d'un groupe. Et finalement, je trouve que ça s'est vraiment inversé, qu'elle a fait ses preuves, que c'est même pas rapport au résultat, c'est rapport à ce que ça a donné sur le terrain, à ce que ça a construit sur le terrain. J'ai vu, c'est bizarre, mais j'ai vu du foot de rue, j'ai vu la nouvelle génération qui prenait le pouvoir, et c'est elle qui leur a donné cette chance-là quelque part. Donc,
je te donne du crédit sur le style effectivement de certaines joueuses. Ça a été souligné à l'antenne, effectivement, une modernité dans le jeu de certaines joueuses qu'on n'avait pas toujours observé ces 10 dernières années.
Il
vient vous poser légitimement la question, effectivement, avec des styles de jeu spectaculaires. Il vient vous poser légitimement la question parce qu'effectivement, Noël Le Graët, quand tu fais demi, on prolonge, que ce soit Didier Deschamps ou Corinne Diacre. Tu fais une demi dans un grand tournoi, c'est Blanc-Seing. Tu vas donc. En même temps, il a dit je l'ai soutenu quand ça allait mal, c'est pas maintenant que ça va bien. Donc effectivement, il a déjà tranché pour nous, le président de la Fédé. Je suis désolé, sur le plan tactique, il y a quand même eu une impuissance face aux Allemandes. Il y a eu énormément de changements, changements tactiques.
On n'a pas réussi à les mettre en danger.
David, tu voulais réintervenir sur Corinne Diacre. C'est vraiment le bon timing. C'est maintenant. On prolonge et on part avec Corinne Diacre.
J'ai l'impression. Moi, j'aime bien remettre les choses en question tout le temps, et c'est le principe du haut niveau. Hein. Je ne veux pas vous apprendre ça quand même. Je suis pas sûr que ce soit, je remettrai les choses en question par rapport à l'entraîneur qui n'a pas démérité et qui peut-être a poussé son groupe au max, et il y a peut-être besoin là pour le coup, alors ou elle laisse la place ou alors il y a du renfort qui vient avec elle, mais en tout cas j'ai le sentiment qu'il y a besoin de quelque chose de plus pour aller décrocher le Graal. Voilà, c'est la sensation que j'ai. J'ai l'impression que ça patine un peu. Effectivement, Simon, je suis d'accord avec toi. Les choix tactiques, c'était pas. Enfin, voilà. Parce qu'il y a une jeune génération qui est là, qui pousse et qui pousse fort. On l'a vu lors de ce championnat d'Europe. Et est-ce que c'est avec Corinne Diacre ou pas? J'ai l'impression que ou alors on change radicalement les choses et on explose le système pour essayer de bousculer et gagner le gros lot. Ou alors on lui met quelqu'un en complément qui va pouvoir prendre cette équipe en main, la faire monter, la mettre en symbiose avec les anciennes pour que ça marche.
Arnaud Assouani, toi qui es athlète paralympique, tu t'inscris dans des cycles de 4 ans de préparation pour les Jeux, la Corinne Diacre, ça va faire 5 ans à la tête des Bleus. Tu penses que toi, la dynamique qui est née de cet Euro lui donne la légitimité, va lui donner de l'élan pour continuer d'emmener cette équipe?
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut garder la dynamique, elle est positive. Donc effectivement, ce qui fonctionne pas, c'est de bien analyser ce qui a pas fonctionné sur cet Euro. Et la stratégie, on peut pas la changer maintenant. Enfin, c'est pas possible. À un an avant la Coupe du Monde, si on a l'objectif de la gagner, c'est juste impossible, ça fonctionnera pas. Alors bien évidemment, ça peut être le choix de se dire on refait tout et peut-être que ça peut fonctionner. Mais en fait, il y a pas de surprise dans le sport de haut niveau, surtout à ce niveau là et surtout dans les sports d'équipe. Le groupe a l'air de bien vivre tactiquement. Effectivement, ce qui a changé, il faut pouvoir avoir des personnes qui arrivent en complémentarité pour tout simplement
Arnaud, regarde, il vit bien le groupe, mais il gagne pas.
Bah, ils gagnent pas.
Objectivement, oui, c'est exactement.
Ils gagnent pas, mais justement, ce que je veux dire, c'est que
tu vois, à un moment, le haut niveau, faut gagner. Hein.
Bah, le haut niveau, faut gagner, mais le haut niveau, faut aussi, tu le sais, c'est être régulier en demi-finale, être régulier en finale. Ça n'a jamais été le cas pour l'instant. La preuve, c'est la première fois que les filles sont en demi-finale. Donc le but, c'est réellement justement de se dire, bah, la prochaine étape, c'est finale et ou gagner. Et pour, je suis d'accord avec toi sur la remise en question. Pour moi, c'est vraiment là-dessus que j'axerais énormément sur. Ok, qu'est-ce qui s'est passé après la Coupe du Monde? Et pourquoi ça n'a pas fonctionné à ce moment-là? Ok, maintenant le niveau il est différent, mais encore une fois il n'y avait pas les Américaines sur cette compétition. On perd contre les Allemandes. Qu'est-ce qu'il y a à modifier? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Pour moi c'est réellement cette démarche qu'il faut avoir. À partir du moment où il y a eu le choix de garder Corinne Diacre, c'est pas maintenant qu'il faut la changer. Ça aurait été après la dernière Coupe du Monde. Maintenant une fois qu'on est reparti, il faut être cohérent en fait et aller jusqu'au bout.
Alors effectivement de toute façon le projet en cas de prolongation de Corinne Diacre, c'était d'abord jusqu'en 2023, parce que pour les filles en 2023, il y a une Coupe du Monde, a priori en été. La FIFA consulte actuellement pour savoir si on va pas la déplacer en hiver. Et puis 2024, pourquoi? Parce que les Jeux Olympiques, et on sait que dans le football féminin, les Jeux restent une échéance beaucoup plus importante encore que dans le football masculin. J'ai bien vu qu'avec avec la question sur Corinne Diacre, vous avez un petit peu quand même tempéré hein, vos avis. David, il a presque retourné sa veste en plein débat. Il m'a dit au haut niveau, faut gagner. C'est sympa les souvenirs de vacances, mais les souvenirs de colo à l'Euro, mais bon, il faut gagner. Je lis quelques réactions des auditeurs qui réagissent sur l'application Direct Studio et qui sont pas d'accord avec vous.
Bah, Odette, tu les as choisis, non?
Non, ah bah écoute, j'en ai trois à vous dire. Odette qui nous dit bonjour. Bien entendu que c'est un échec pour les joueuses féminines de l'équipe de France de football. Elles sont tombées en demi-finale et à vous entendre, c'est bien. Curieux cette mentalité française de gagne petit et ça dans tous les domaines de la vie. Merci. Bon samedi, bonne émission. Nous précise tout de même.
Odette,
ouais, c'est gentil.
Oui, voilà, gagne petit, David Douillet, double champion olympique, hein, tout de même, ma chère Odette. Cédric qui nous dit, on ne peut pas parler de réussite, regardez contre qui elles ont joué, elles ont quand même galéré contre l'équipe B des Pays-Bas, arrêtez de défendre Diacre, elle est là depuis 5 ans, les résultats ne sont pas là, elle ne convoque pas des meilleures joueuses et on ne le remet pas en cause. On vient gagner ou participer.
T'es obligé de faire avec les forces en présence, quoi. Donc c'est pas de défendre Diacre, c'est essayer d'être objectif et d'analyser la situation dans son ensemble, quoi. Sinon, ça n'a aucun intérêt.
Moi, je suis un peu d'accord avec ce qui vient de dire.
Tu vois, David, et puis Gaëtan qui souligne enfin Corinne Diacre, il l'appelle Corinne, peut-être qu'ils se connaissent, Gaëtan et Corinne Diacre. Corinne laisse la meilleure buteuse à la maison, sous-entendu Eugénie Le Sommer, et on ne marque pas de but, ça ne dérange personne. Alors voilà, effectivement, Corinne Diacre qui a donc désormais un petit peu, rien n'est signé encore pour la prolongation, mais c'est dans les tuyaux, qui a donc un petit peu de temps pour peaufiner son projet, objectif, au moins demi-finale, nous dira le Noël Le Graët à la Coupe du Monde 2023 et au jeu 2024. Arnaud, pour terminer,
il y a qu'une équipe qui gagne à chaque fois. Donc en fait toutes les autres équipes c'est un échec à chaque fois. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en fait à chaque fois qu'une équipe perd en finale, il faut tout changer?
Non mais c'est effectivement tu soulèves une excellente question. On regarde aussi par rapport au potentiel, par rapport à ce qu'on laisse en route, à ce qu'on aurait pu faire ou regret qu'on peut avoir. David.
Ce qu'on peut constater, Simon, et on l'a vu dans beaucoup de sports, beaucoup de fédérations, c'est que lorsqu'on laisse trop longtemps une équipe d'entraîneurs ou de sélectionneurs, quand il n'y a pas de succès à la clé, c'est une catastrophe. C'est-à-dire la discipline plonge littéralement. Voilà, ça aussi, il ne faut pas le négliger. Donc remettre en question, un athlète se remet en question à chaque compétition. Était bien placé pour le savoir. Or, souvent, on constate qu'il y a une espèce d'entre-soi dans certaines fédés, et je veux même pas parler de l'athlée, hein. Voilà, on en a parlé la semaine dernière. Et donc, je considère, et tu l'as dit, Simon, on fonctionne par Olympiade, mais on peut fonctionner autrement aussi, hein. Le staff des entraîneurs doivent être remis en question, alors changé ou pas, mais en tout cas remis en question sur la sellette. C'est sain, c'est normal. Ils font partie du wagon de l'histoire d'une équipe, d'un joueur, d'un athlète, et il y a rien de mal à ça. Ça fait partie des caractéristiques du haut niveau. C'est normal.
En tout cas, elles ont crevé le plafond effectivement sur RMC à la télévision gratuite. Les Bleus, effectivement, elles ont quand même suscité un intérêt. Angleterre-Allemagne, la finale de l'Euro demain. 18h. C'est à Wembley, hein, s'il vous plaît. Effectivement, on suivra ça. Les Anglais, je pense, malgré tout, un petit peu favorites. Vous restez bien avec nous. Les Grandes Gueules reviennent dans un instant avec une nouvelle tête ce matin. Arnaud Assoubani, il a plutôt réussi son premier débat, même s'il est resté quand même sur une position assez sage. Hein. Il n'a pas pris de risque. Hein. Lui, il a déjà gagné l'Euro, mais il cherche un club à sa démesure. Vous savez très bien de qui je parle. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules du Sport.
Simon Dutin.
9h36, vous êtes bien sur RMC, c'est le retour des Grandes Gueules du Sport. On est ensemble en direct jusqu'à midi, en compagnie aujourd'hui de Marie Martineau, David Douillet et Arnaud Assoubani. Il fait sa grande première dans l'émission, dans un quart d'heure, votre première ration de zapping, on s'en fout pas, avec le retour des tribunes debout dans les stades de football en Coupe d'Europe. Vous nous direz si ça vous plaît, les GG. Mais pour l'instant, à 37 ans, vous l'avez reconnu, évidemment, Cristiano Ronaldo a toujours faim. Le quintuple Ballon d'Or aurait des envies d'ailleurs. Revenu en divinité à Manchester United l'été dernier, le Portugais a vite déchanté. Sixième de Premier League, les Red Devils ne joueront pas la Ligue des Champions cette saison. Du coup, certains de nos confrères pensent savoir que CR7 a signifié à ses dirigeants son envie de jouer ailleurs. Problème, aucun grand club européen ne semble disposé à accueillir l'encombrante superstar. Alors cette question, les GG, pour vous, Cristiano Ronaldo est-il oui ou non devenu has-been ? Arnaud ?
Non.
Non. Marie Martineau ?
Non plus.
Non plus. David Douillet ?
Oui, mais has-been, c'est pas tout à fait le bon terme.
Oui, mais il y a tout de même un oui, on va avoir un débat. Alors, avant de vous donner la parole et d'entendre vos arguments, on accueille avec un grand plaisir Lounis Kelaf de la rédaction RMC Sport. Salut Lounis.
Salut, bonjour à tous.
Lounis, qu'est-ce qu'on sait de la situation de Ronaldo à Manchester actuellement ?
Eh bien, c'est toujours aussi flou ce que nous savons. C'est que Cristiano Ronaldo a communiqué son envie de quitter le club pour jouer à tout prix, tu l'as rappelé Simon, la Ligue des Champions et non la Ligue Europa. L'attaquant portugais n'a pas participé à la tournée en Asie et en Australie avec son club. Il a fait son retour mardi à Manchester pour parler de son avenir avec son entraîneur Erik ten Hag et son agent, Jorge Mendes. Mais le technicien néerlandais est clair sur la situation. Ronaldo, à qui il reste un an de contrat, n'est pas à vendre. Et de toute façon, les club ne se bouscule pas. Les rumeurs l'annonçant au Bayern, à l'Atlético Madrid ou encore au Sporting Portugal, son club formateur, ne se sont pas concrétisées. Des rumeurs qui n'ont pas manqué d'agacer CR7, qui l'a fait savoir sur son compte Instagram hier après-midi. Et quelques heures après, le quintuple Ballon d'Or a laissé entendre qu'il sera de retour dimanche pour le dernier match amical face au Rayo Vallecano, en postant un message très simple. Domingo au Rei Joga, comprenez, dimanche, le roi joue.
En toute simplicité, notre ami Ronaldo.
Clair,
ouais, en toute humilité, mais on adore ça, un peu à la Ibra et tout. Ouais, demain, ça. Le roi joue. Voilà, ça. Hein, vous avez votre réponse. Et merci beaucoup, Lounis, pour ce petit rappel des faits. Tu restes évidemment avec nous pour ce débat et tu interviens quand tu veux. Je vais me tourner vers David Douillet, qui nous dit « Oui, Ronaldo est devenu un has-been, mais pourquoi, mon cher David ?»
Je connaissais pas sa dernière déclaration, mais là pour le coup je maintiens un petit peu has-been, enfin en tout cas dans le terme. Il y a un athlète qui a autant d'humilité, très franchement, c'est à pleurer quoi. Il est peut-être temps qu'il raccroche. Non, il a 38 ans le garçon, il a 38 ans, il coûte extrêmement cher. Franchement, il est une marque à lui tout seul, il est même à lui tout seul je pense, plus puissant au niveau des médias qu'un club, qu'une marque de club. Donc, très franchement, réfléchir pour se dire, tiens, je vais prendre Ronaldo sur un projet sportif, à gérer dans une équipe, bah voilà, il vient de le décrire, hein, c'est le roi qui arriverait dans une équipe, bonjour l'ambiance, avec les autres. Très sincèrement, je vais la faire très courte parce que je veux que le débat s'anime, mais penser à Ronaldo, c'est déjà commencer à se créer des problèmes pour un sélectionneur. Et avoir Ronaldo dans son effectif, je vous dis pas l'ambiance. C'est chaud, quoi. Voilà, faut gérer le bonhomme, quoi.
Franchement, je suis pas sûr. Bah, à l'inverse de toi, pour avoir lu un petit peu des remarques qu'ont pu faire des collègues à lui et tout, il a une image sportive déjà ultra irréprochable. Le mec qui est à l'entraînement avant les autres, qui en part après les autres, qui fait plus de pompes que les autres, qui fait plus d'abdos que les autres. Les témoignages des footballeurs sont unanimement positifs sur ce mec-là. Qu'il ait 37 ans, je suis d'accord avec toi, c'est les faits, mais je pense qu'il est dans un body, dans un corps de peut-être 28-29, qu'il a encore des belles années devant lui. Les stats parlent pour lui, hein. Ça ne dégringole pas spécialement. Il est quand même toujours assez incisif et décisif. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce côté-là. Et après, je m'étais posé la question tout simplement. Donc, has-been, deux axes, soit a été, voilà, il a été. Donc là, je viens de vous expliquer qu'à mon sens, il a été, mais qu'il est toujours. Ou alors démodé. Démodé, je me suis dit, attends, alors, quel genre ou quel athlète, selon toi, pourrait être considéré comme démodé? Et je vous promets que si tu prends le problème à l'envers dans ce sens-là et que tu penses pas à Ronaldo, mais que tu dis, tiens, quels athlètes sont selon moi démodés? Et ben, c'est R7, mais pas venu du tout.
Ah, mais Marie, on fait pas de la version en cours d'anglais là. On demande en gros s'il a une chance de pouvoir trouver un poste
dans un club de même calibre,
en disant à has-been, est-ce qu'en gros il y a un grand club européen qui le prendra, un club qui
mais
veut jouer là
qui va mettre
la Ligue des Champions
et qui va redescendre un petit peu sur ses ambitions salariales et qui finalement il va faire une belle fin de carrière dans un club.
Arnaud, tu trouves pas qu'il manque un petit peu de classe quand même, Cristiano Ronaldo? Il est revenu, je le disais, comme un dieu vivant à Manchester United. Ok, ça gagne pas la première saison, mais il y a un nouvel entraîneur, des belles promesses de jeu à l'intersaison. Bon, est-ce qu'il gagnerait pas tout simplement, mais même pour son héritage, l'image qu'il va laisser, à rester, à essayer de ramener Manchester en Ligue des Champions?
Alors moi je vais pas juger tous les transferts etc, parce que pour le coup j'y connais pas grand chose, même si je suis aussi un peu de loin. Par contre au niveau sportif je peux un peu plus juger. Je vais pas juger la personne et toute la marque à côté, même si ça en fait partie, mais là on parle surtout du sportif. Effectivement, est-ce qu'il va faire des stats qu'il a, marqué autant de buts qu'il a pu marquer lorsqu'il était au Real, même à la Juventus, parce qu'il était encore avec des très gros stats. Il a quand même diminué là sur la dernière saison. Par contre, effectivement, l'histoire en fait, moi je la trouve belle par rapport à Manchester, et il gagnerait justement à pouvoir continuer avec l'équipe. Faire ce genre de déclaration sur Instagram, Ibra, on est habitué, on sait que ça fait partie du personnage. Ouais. Il y a du second degré aussi, bien évidemment. Il y a un peu d'arrogance aussi et beaucoup de confiance en lui. Mais Ronaldo, ça va pas vraiment complètement avec le personnage, quand bien même il a un palmarès incroyable et c'est un des plus grands joueurs de tous les temps. Pour moi, il tant qu'il est encore en carrière, en fait, c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui a prouvé sa régularité à très haut niveau. Mais c'est ça qu'on. Enfin, moi, c'est ça que je juge en tout cas, parce que si on parle effectivement de l'homme, de la marque, de ce qu'il représente et sur le fait de démoder, à ce niveau-là, pour le coup, pour moi, il est extrêmement démodé.
Très sincèrement,
oui. Ah oui.
Arnaud, David. Si on se met, c'est ça en fait. La question, c'est est-ce que si nous étions sélectionneurs, est-ce qu'on prendrait Ronaldo? Est-ce qu'on penserait à lui pour s'inscrire dans des objectifs futurs?
Oui.
Quand t'es Paris Saint-Germain et que tu prends Messi, je vois pas pourquoi un autre club pourrait pas prendre Ronaldo.
Attention là.
Non, mais on parle de Ronaldo.
Moi, je football quand même.
Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, en termes de typologie de joueur, c'est un mec qui est plutôt en fin de carrière.
Si je veux m'inscrire. Pardon, excuse-moi. Si je veux m'inscrire dans un projet sportif, dans un grand club pour gagner une Coupe d'Europe, etc. Je pars avec un effectif plutôt jeune, plutôt rénové, etc. Je prends pas un mec de 38 ans, même s'il est en pleine forme. Ouais, il a l'âge de ses artères malgré tout, quoi que tu en penses.
Non, mais il fait vendre des maillots.
Vous savez très bien que dans le monde du foot, il faut associer le sportif et ce qui se passe en dehors du monde du sport et de son image et de ce qu'il dit, etc. Vous rendez compte la problématique. Enfin, moi, je me gratterai la tête tous les jours à épier ou à me dire, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir me dire? Parce que ce mec-là, quand il dit quelque chose, ne serait-ce que sur son compte Insta ou n'importe quoi, d'un seul coup, il y a plus de 100 millions de personnes qui reçoivent l'information. C'est une puissance folle, quoi. T'as une grenade dégoupillée dans les mains, quand même. Faut quand même le comprendre. Alors, c'est pas simple de gérer ce genre de choses.
Et pour aller dans le sens, avant de te donner la parole, Arnaud, pour aller dans le sens de David. Bon, le Real, ils ont tourné la page. Le Barça, c'est impossible. City, ça paraît compliqué. Liverpool, ce sera pas Liverpool. Le Bayern a dit par Oliver Kahn que c'était pas sa philosophie, qu'il se fourvoirait s'il le prenait. Chelsea, on en a parlé à un moment, finalement ce sera pas Chelsea. L'Atlético Madrid, les supporters n'en veulent pas, ça a bien fait marrer Ronaldo, il a dit non mais vous croyez que j'allais venir jouer chez vous. Bon, la Juve il peut pas y retourner, les autres clubs italiens n'ont pas les moyens. Mais bon, au bout d'un moment, lui il veut s'en aller, mais bah, personne ne veut l'accueillir quand même, Arnaud.
Ils sont clairvoyants.
Mais en fait, c'est assez marrant parce que c'est vraiment à double tranchant. Il y a autant d'un côté, en fait, moi je me dis qu'un Ronaldo dans une équipe jeune, justement, tu sais à quel point l'expérience est importante, et la transmission et l'émulation l'est aussi. Quand t'as quelqu'un qui arrive dans le club et qui est un immense bosseur, bah ça tire tout le monde vers le haut. Après, effectivement, si aujourd'hui son objectif c'est plus tous les à côté, bah là ça devient nocif pour le groupe. Donc ça, moi je suis pas en capacité de juger par rapport à la mentalité et les objectifs de Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Au final le côté sportif est mis un petit peu plus de côté, il est plus à 100% là-dessus. Mais bien évidemment que je prendrais un Cristiano Ronaldo dans un club, parce que pour moi il va justement apporter énormément. Après, je connais pas dans le vestiaire comment il est aussi avec les autres joueurs, mais comme tu le disais Marie tout à l'heure, j'ai l'impression quand même qu'il a une belle image, une belle aura auprès des autres joueurs. Après, c'est tellement des grandes stars. Et on pourrait dire la même chose par rapport à Kylian Mbappé qui est beaucoup plus jeune. Et bien évidemment, s'il dit quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, ça va influencer sur le PSG. Sur ça, c'est aujourd'hui, c'est le cas pour tous les très grands sportifs. Et je dis pas sportifs parce que c'est surtout des hommes quand même dans le monde. Et ça peut être tous les autres sports comme la NBA ou autres.
Ok, affaire à suivre en tout cas. Évidemment, oui. Vous aurez toutes les dernières infos grâce à la rédaction foot de RMC. On précise tout de même que Cristiano Ronaldo, tu le comparais à Messi. Je suis pas sûr qu'il y a effectivement le rôle d'inspiration qu'il peut avoir auprès de ses jeunes coéquipiers dans le vestiaire. Je suis pas sûr que ils soient capables de se mettre au service éventuellement d'une nouvelle équipe comme Messi l'a fait pour le PSG en reculant un petit peu sur le terrain, en essayant de s'effacer au profit justement de Mbappé qui prend plus la lumière. En tout cas, juste avant. Tu peux nous rappeler la phrase de Cristiano Lunis?
Domingo o rei joga. Traduction, dimanche le roi joue.
Demain le roi joue enfin.
Contre le Rayo
Vallecano en préparation avec Manchester United. Ronaldo qui un peu plus tôt dans la semaine s'est exprimé sur Instagram en réponse à un commentaire sur un compte de fan d'Alex Ferguson. La presse ne vend pas si elle ne parle pas de moi. Alors arrêtez de parler. Il écoute très certainement les grandes gueules du sport, notre ami Cristiano. Et on l'embrasse avec toute notre affection. Vous restez bien avec nous, merci beaucoup Lounis d'être descendu dans le studio des Grandes Gueules du Sport. À très vite sur l'antenne de RMC. Vous les auditeurs, vous ne bougez pas, les Grandes Gueules reviennent dans un instant. C'est déjà l'heure de votre première ration de On s'en fout, on s'en fout pas. À tout de suite.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules du Sport.
Simon Dutin.
9h51, vous êtes bien sur RMC, c'est le retour des Grandes Gueules du Sport. On est ensemble en direct jusqu'à midi, en compagnie aujourd'hui de Marie Martineau, David Douillet et Arnaud Assoubani, qui fait sa grande première dans l'émission. À 10h, on se penche sur la punchline de la semaine. Elle sort de la bouche de Kevin Mayer. Mais pour l'instant, grand débat égale petit zapping. On s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des Grandes Gueules du Sport.
Vous connaissez le principe de l'émission, je vous donne de la rubrique, je vous donne une info, elle vous intéresse, vous avez le droit à la parole, elle ne vous intéresse pas, inutile d'en dégoûter les autres, vous n'avez pas le droit de vous exprimer, si elle n'intéresse personne, on la zappe, on passe à la suivante. Première info, les GG, le retour des tribunes debout dans les compétitions européennes de football. On s'en fout pas, Marie Martineau?
Moi je m'en fous pas.
Marie Martineau, on s'en fout pas. Arnaud Assoumani?
Je ne m'en fous pas non plus.
Arnaud Assoumani ne s'en fout pas. David Douillet?
Ouais, moi non plus, je m'en fous pas.
Allez, c'est une barquette, comme on dit à la belote. Tout le monde en veut. Le comité exécutif de l'UEFA a approuvé la restauration des tribunes debout lors des compétitions européennes de la prochaine saison de football 2022-2023. Alors, ça concerne les pays qui les avaient déjà autorisés dans leur réglementation nationale, soit la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Depuis sa création il y a 14 ans, c'était l'un des chevaux de bataille de la FSE, l'Association des supporters européens. C'est un programme d'observation, a précisé l'UEFA. En France, on précise que cela avait été interdit en 92 après le drame de Furiani. En Angleterre, en 89 après le drame de Hillsborough lors de la rencontre entre Nottingham Forest et Liverpool. Tous les stades ne sont pas concernés. Hein. En France, l'expérimentation aura lieu au Parc des Princes et à Nantes, puisque la Tribune Loire répond, elle, aux critères de l'UEFA. Arnaud, pourquoi on s'en fout pas?
Parce que si les supporters ont envie d'être debout, ils peuvent le faire et ça peut être même plus confortable si tout le périmètre en fait a été prévu pour ça. Après moi c'est en termes d'accessibilité aussi pour des personnes qui ont différents types de handicap. Est-ce que alors il y a des personnes qui peuvent pas se mettre debout mais qui peuvent être supporters ultra ou autres, et donc pouvoir être au Parc des Princes par exemple, comment ça se passe pour elles, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues, et en matière de sécurité, donc ça c'est une question aussi, et voilà, moi je trouve ça bien en tout cas de pouvoir encadrer ça, parce que dans tous les cas les supporters le font.
Et effectivement cela va s'accompagner dans certains stades effectivement de mesures d'amélioration des accès justement pour tous aux tribunes. Marie, rapidement.
Bah très rapidement, concert de Jamiroquai dans les gradins, tu descends, tu vas dans la fosse, voilà, c'est plus le même concert quoi. Donc je me dis ben pour un match ça peut certainement faire exactement le même effet, et donc je conçois totalement qu'il y ait des gens qui veulent être debout en bas tous ensemble collés quoi.
On embrasse Jamiroquai. David Douillet, quelque chose à rajouter ou on passe à la suivante?
C'est juste un oui, mais il faut que techniquement les stades soient en capacité de résister, parce que quand j'étais ministre, j'étais confronté à des problématiques de genre et attention, faut faire très attention. Et
on a quand même de bons souvenirs de jeunesse debout dans les tribunes, c'est quand même autre chose effectivement en termes d'ambiance et de ressenti. Deuxième info de ce zapping les GG, Caroline Garcia qui bat Iga Świątek, on s'en fout pas. Marie Martineau.
Oserais-je ? Je m'en fous.
Elle s'en fout, elle a osé, Arnaud Assoumani.
C'est très bien, on peut en parler un peu, mais c'est très bien.
On s'en fout pas. David Douillet.
Je m'en fous pas, mais je vais laisser parler Arnaud.
Pour la première fois de sa carrière. Là, ouais, on la connaît celle-là. Hein. Pour la première fois de sa carrière, la Française a battu une numéro 1 mondiale en activité. Caroline Garcia s'est imposée hier face à Iga Świątek en quart de finale du tournoi de Varsovie, s'il vous plaît, sur les terres de la Polonaise et sur terre battue face à la récente vainqueur de Roland Garros. Garcia, première Française à battre la numéro 1 mondiale en activité depuis Mary Pierce en 2005. C'était à l'époque Lindsay Davenport, l'américaine. Aujourd'hui, Garcia affrontera l'italienne Paolini en demi-finale. L'autre demi oppose l'ukrainienne Bindel à la roumaine Bogdan. Arnaud, on t'écoute.
Bah, c'est une super performance. En plus, elle est polonaise, hein, Świątek, que j'y passe.
Oui, de tout à fait.
Donc chez elle, c'est une grande performance qu'il faut noter, parce que justement, on parle des Français qui ne gagnent pas. Donc là, il y a des Françaises qui ne gagnent pas forcément. Et donc là, Caroline gagne. C'est génial. J'espère qu'elle va aller au bout. Et j'espère que ça va lui apporter de la confiance pour la suite, parce que voilà, elle est pour l'instant assez loin quand même du top 10 qu'elle avait eu il y a quelques années.
Elle revient en tout cas très en forme, la Française, même si on espérait la voir aller un petit peu plus loin à Wimbledon. Peut-être qu'on en touchera un petit mot à Eric Salio tout à l'heure, parce qu'il vient pour nous parler de Novak Djokovic et du prochain US Open. Mais c'est vrai que c'est une performance qu'on ne pouvait pas prévoir, hein, à l'heure où on a dessiné un petit peu les contours du conducteur hier avec Pierre Amiche et la rédaction en chef à RMC Sport. David, en 20 secondes, tu peux ajouter quelque chose? C'est une performance
même encore plus court. J'espère que c'est un vrai gros déclic. Et ça, on en a tous eu dans nos carrières. D'un seul coup, on bat une personne qui est très très costaud, et pourquoi pas la meilleure mondiale. Et pouf, tout change dans la tête et tout se met en place. Donc, j'espère qu'elle va aller dans ce sens-là.
Et pouf, tout change. Je cite David Douillet. Ça va rester.
On la gardera.
Ça va peut-être finir dans le jingle des grandes gueules du sport. Hein. Attention, mon David. Tout change. Retour du zapping. Les GG, dans un peu moins d'une heure, 10h45. Je vous signale que Pierre Amiche a lourdement insisté hier afin que on parle du Tour de France naturiste qui rencontre des difficultés avec certains préfets, hein, certains préfets qui refusent d'accueillir, et on s'en offusque, hein, ici dans cette rédaction, l'arrivée du Tour de France naturiste, hein, il n'y en a pas que pour les hommes et les femmes, on a le droit de rouler les attributs à l'air, et on verra ce que cette info vous inspire. Elle est très zapping des GG, cette info. Rendez-vous à 10h45 si vous voulez l'avis des grandes gueules là-dessus. Les auditeurs, vous restez bien avec nous. On termine la première heure de cette émission. Les grandes gueules reviennent dans un instant. Le sport en France, on s'en fout ? On s'en fout pas. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.